BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, il est 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, mobilisation au sommet de l'État pour sauver Atos parce que Bercy vient de l'annoncer, une solution nationale sera trouvée dans les prochaines semaines. Vous savez que ce matin, c'est Airbus qui a confirmé qu'il ne négociait plus le rachat de certaines activités. On va voir ça dans un instant, puis on va en parler avec nos experts qui reviennent bien sûr dans un quart d'heure.
Alors avec eux, nous allons aussi parler de cet appel de Bruno Le Maire aujourd'hui à Berlin sur le sujet de l'union des marchés de capitaux, ce vieux serpent de mer. Alors comment drainer plus d'épargne pour créer des grands groupes capables de rivaliser avec la Chine et les États-Unis? Eh bien c'est la question qu'on se posera ce soir. Et puis on parlera aussi du test PME et qui est soumis au vote des sénateurs en ce moment avec cette idée assez simple, tester une nouvelle norme avant de l'appliquer.
Ça paraît frapper du bon sens quand on le dit comme ça finalement. Qui sera avec nous pour parler de tous ces sujets dans un quart d'heure? Léon Laoulouza, le directeur général de l'ESCP Europe, l'ancien député européen Lee Mong-nok et l'économiste Marc Touati. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc journée encore cauchemardesque pour Atos, le titre a perdu 19% à la Bourse de Paris après qu'Airbus ait confirmé ce matin qu'il ne négociait plus le rachat de certaines activités du groupe Big Data et Cybersécurité. Ce soir, Bercy annonce solennellement qu'une solution nationale de protection des activités stratégiques sera trouvée dans les prochaines semaines. Mathieu Pechberti.
Bercy a réaffirmé ce soir qu'il surveillait le dossier et il y a une petite phrase qui va effectivement faire causer, qui est de dire que Bercy va étudier dans les prochaines semaines une solution nationale autour d'Atos. On nous dit d'ores et déjà à Bercy qu'il ne s'agit pas d'une nationalisation. De toute façon, Bercy n'a jamais voulu de nationalisation. Alors, pas d'Atos, hein, évidemment, on parle que des activités stricto sensu de cybersécurité et des supercalculateurs qui ne sont pas une activité très importante en termes de taille. Il n'y aura pas de nationalisation, mais on peut évidemment s'attendre. Il y a d'ailleurs déjà des échanges, en réalité, hein, informels, évidemment, entre le gouvernement et des acteurs du dossier et ou public ou pseudo-public, je m'explique.
Ou l'actionnaire est
il y a la Banque publique d'investissement, qui est BPI France, pardon, qui est toujours mise en avant dès qu'il y a un dossier de ce genre. Donc, ils regarderont, parce que si le ministre le demande, ils le feront. Mais on pense surtout, et là, en tout cas, moi, mes informations sont claires sur le fait qu'il y a des échanges là-dessus maintenant depuis plusieurs mois, des contacts, on va dire. Il n'y a pas de projet, mais il y a des contacts entre le gouvernement et des groupes quasi publics comme Dassault, bien qu'il appartienne à la famille Dassault. L'État est actionnaire du groupe Thalès. La famille Dassault et le groupe Dassault ont toujours été extrêmement proches de l'État, bien que groupe privé et familial, puisqu'ils dépendent très largement de la commande publique.
Pardon, vous avez vu ce qu'a dit Thalès tout à l'heure, qui s'est empressé de répéter qu'il n'était pas intéressé par BDS.
Oui, mais Thalès, en réalité, depuis maintenant près de 2 ans, a toujours dit qu'il n'était pas intéressé par cette division qui s'appelle Big Data and Security, en fait, parce qu'ils sont intéressés que par la cybersécurité. Oui. Oui, donc il y a toujours une nuance à avoir, et on entend quand même clairement dans l'entourage Atos dire que si à un moment donné, cette entité qu'on appelle BDS, Big Data and Securities, donc la cybersécurité et les supercalculateurs, peuvent très bien être partagés au sein du groupe Dassault, entre Thalès, Dassault Aviation peut-être pour les supercalculateurs. Bref, Dassault, encore une fois, est un groupe privé, mais très proche de l'État, parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre.
Voilà, Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. On reparlera bien sûr dans 10 minutes du dossier Atos avec nos experts dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, je vous le disais, l'appel solennel de Bruno Le Maire qui était à Berlin aujourd'hui, qui a plaidé une nouvelle fois pour que l'Europe crée enfin une union des marchés de capitaux. Faire plus travailler ensemble les systèmes financiers pour drainer plus d'épargne, pour créer des géants européens dans le domaine de la tech, de la transition climatique. Au-delà de ça, Bruno Le Maire, très clairement, a appelé un véritable sursaut européen face à la Chine et aux Américains. Écoutez.
Le premier mot d'ordre, c'est le risque. Depuis des années, depuis des décennies, l'Europe met en avant le principe de précaution. Eh bien, moi, je mets en avant le principe de risque. Nous devons mettre en avant le risque. L'Europe de l'après-guerre s'est faite autour du charbon et de l'acier. L'Europe de demain doit se faire autour de l'intelligence artificielle. Nous avons créé l'Europe en créant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Je vous fais aujourd'hui, à Berlin, cette proposition. Créons ensemble, Français et Allemands, la communauté européenne de l'intelligence artificielle. Acceptons d'innover avant de réguler. Nous avons la passion de la régulation. Mais je préfère innover sur mes propres innovations que réguler les innovations des autres.
Voilà Bruno Le Maire qui appelle au sursaut du côté de l'Europe. Et puis figurez-vous qu'à Paris aussi, on a brainstormé aujourd'hui sur l'attractivité de la place de Paris. C'était lors de la conférence annuelle d'Euronext au pavillon Gabriel. Bonsoir Étienne Braque, vous avez assisté à ces débats. Emmanuel Macron a d'ailleurs donné quelques pistes. Il veut solliciter le secteur privé, la Caisse des dépôts et l'Europe tout entière, Étienne.
Oui, et ça sera même le plan des prochains mois au niveau national, continuer à attirer les investisseurs. Depuis le Brexit, Paris est devenue la première place européenne et pour cela, Emmanuel Macron veut encore aller plus loin avec plusieurs mesures qui ont été annoncées, à commencer notamment par une simplification des introductions en bourse. Aujourd'hui, vous avez pas mal de dirigeants qui ont peur d'aller en bourse. Aujourd'hui, il y aura des droits de vote multiples. Ainsi, ils vont continuer à conserver le contrôle de leur entreprise. Des mesures pour les PME, pour les ETI en bourse. Vous savez, il y a des gros problème de liquidité en ce moment sur les petites et moyennes valeurs. Par rapport à cela, vous avez la Caisse des dépôts qui va injecter 500 millions d'euros là dans les prochains jours afin de financer ces PME, ces ETI, avec bien sûr l'objectif de créer aussi un union des marchés au niveau européen. Ça va être plus compliqué avec également un livret d'épargne qui devrait être commun par rapport aux différents pays européens. Et puis enfin, des mesures également pour simplifier les normes. Parce qu'Emmanuel Macron l'a dit dans son message ce matin, il y a beaucoup trop de normes, il faut simplifier les introduction en bourse, simplifier le financement de l'économie réelle, avec bien sûr toujours l'objectif de mettre en bourse les start-up et éviter qu'elles aillent à Wall Street.
Merci beaucoup Étienne Braque, donc au pavillon Gabriel pour BFM Business. En France, toujours les syndicats agricoles ont été reçus donc ce matin pendant près de 2 heures par Gabriel Attal à Matignon. Ils lui ont fixé, ces syndicats, une liste de 5 grosses priorités pour sortir de la crise. Et ils le disent, ils attendent au plus vite un calendrier et des arbitrages sur ces différents sujets. 19h07, dans l'actualité des entreprises, c'est la grosse annonce du jour. Unilever lance un plan d'économie. Le groupe va supprimer 7500 postes. Il va notamment se séparer de son pôle glace, qui contient de grandes marques. C'est Ben & Jerry's, c'est Magnum, c'est Carte d'Or. Des grandes marques, et pourtant Unilever veut se recentrer sur certaines activités. Pauline Tadevin.
La division glace d'Unilever fait les frais du plan stratégique du nouveau patron. Une scission avec cotation en bourse séparée d'ici fin 2025 est la voie de séparation la plus probable, dit le groupe dans un communiqué, qui précise que d'autres options seront envisagées pour maximiser les rendements pour les actionnaires. Cette décision a été influencée par l'investisseur activiste Nelson Peltz, administrateur depuis 2022, qui a fait la même chose chez le concurrent Procter & Gamble, d'après une analyste. La division glace a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros l'an dernier, mais récemment, le groupe a fait état de résultats décevants, dus notamment à l'inflation et à l'essor des marques distributeurs. Il rappelle que cette activité est particulière avec son propre circuit de distribution, très dépendante de la saisonnalité, et se dit convaincu que la scission permettra de mieux exploiter son potentiel de croissance future. En France, c'est l'usine de Saint-Dizier en Haute-Marne qui produit les glaces du géant britannique.
Pauline Tadevin, puis décision qui était très attendue concernant l'avenir de Body Shop. On apprend ce soir, c'est une information BFM Business, que la branche française, la filiale française de Body Shop a choisi de se placer en redressement judiciaire. Toutes les infos, si le sujet vous intéresse, sur notre site internet bfmbusiness.com. Et puis, grosse surprise, figurez-vous que l'Office européen des brevets a publié il y a quelques heures son baromètre annuel de l'innovation pour l'année 2023. Et aux surprises, c'est la région Île-de-France qui est première de la classe en la matière. Mathilde Cheminade.
L'Île-de-France devient la région la plus innovante d'Europe. Elle dépasse pour la première fois depuis 2016 la Bavière, avec 6911 demandes de brevets, dont 3119 à Paris. La région représente environ 64% du total des demandes. Yann Ménière, chef économiste de l'Office européen des brevets, explique ce succès.
C'est la confirmation des atouts de l'Île-de-France en matière d'innovation, en matière de diversité, avec à la fois de la recherche menée par des grands groupes, également de grands centres de recherche universitaire, mais aussi un écosystème de start-up extrêmement dynamique.
L'Île-de-France dépense près de 15 milliards d'euros par an en recherche et développement. Pour Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, c'est un secteur précis qui a propulsé la région en tête du classement.
Je pense à des champions comme Google, Meta, IBM ou français aussi, hein, comme Mistral AI récemment, qui implantent leur centre de recherche en intelligence artificielle en Île-de-France. Tout cela crée un cercle vertueux.
Un secteur pour lequel l'Île-de-France est prédisposée, puisqu'elle regroupe plus de la moitié des ingénieurs français en intelligence artificielle.
Voilà la région parisienne au top en matière de brevets. Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business, 19h10. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, plus 0,65% pour le CAC 40 qui inscrit un nouveau record en clôture, 8201 points. Ça va décidément très très vite. Bonsoir Aude Karsulek.
Bonsoir.
Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, Aude?
Début de réunion de politique monétaire qui dure deux jours. On aurait pu penser qu'il y a un certain attentisme. C'est pas forcément le cas. Ça monte, ça continue de monter. Plus 0,5% pour le Dow Jones, plus 0,9% pour le Nasdaq. Alors, c'était pas forcément le cas en début de séance. On avait Nvidia qui chutait de 3% après l'annonce de sa super puce, sa gigapuce, la meilleure puce du monde. En fait, les investisseurs ont surtout pris leur profit. Ils ont vendu la nouvelle et quel profit, plus 75% depuis le début de l'année. Mais ce qui est incroyable avec Nvidia, c'est qu'elle a immédiatement été rachetée. Derrière, les acheteurs sont revenus et elle est maintenant à la hausse de 0,9%. Comme quoi, tout reste toujours drivé par cette valeur. Même si on a une sous-performance des autres acteurs de la tech, on a notamment Meta ou Alphabet qui est à la baisse en ce moment. Il faut dire que ce serait elle qui serait le plus touchée par le fait que la Fed abaisse ses prévisions de baisse de taux de 3 baisses à 2 baisses. Ça, on le saura demain à 19h.
Verdict demain à 19h. On suivra ça bien sûr en direct sur BFM Business. Merci beaucoup Aude Karsulek avec nous dans Good Evening, 19h11. On revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et tous nos experts. On a encore beaucoup de choses ce soir. Mobilisation de l'État, on en parle en direct autour du dossier Atos. On parlera de Bruno Le Maire qui est allé prêcher pour l'union des marchés de capitaux. Et puis le test PME s'est examiné au Sénat. L'idée est toute bête. Avant de voter une norme contraignante pour les entreprises, pourquoi ne pas la tester? Oui, ça fait des années qu'on en parle. Le patronat attend ça avec impatience. Tout ça plus d'autres choses évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h15, bienvenue sur BFM Business. Eh bien, Airbus jette l'éponge dans le dossier Atos. On en parle tout de suite avec nos invités. Léon Lolusa, directeur général de l'ESCP Business School, bonsoir.
Bonsoir.
Lim Wang Nok, maître de conférence en économie à Paris et ex-député européen. Bonsoir Lim.
Bonsoir.
Et Marc Toiti, économiste président du cabinet ACDF.
Bonsoir Audrey et Guillaume et à toutes et à tous. Ravi d'être là.
Bienvenue sur le plateau et on est ravis de vous avoir. Alors, c'est un peu la dégringolade, l'histoire sans fin pour Atos. Si on résume, on a d'un côté Airbus qui n'est plus candidat donc au rachat de la partie Big Data et cybersécurité. Je rappelle aussi que de l'autre côté, Daniel Kretinsky, lui, n'est plus acheteur non plus sur la partie infogérance et que le gouvernement Bercy vient de faire paraître un communiqué qui annonce que le gouvernement va réfléchir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à une solution nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc Toiti?
C'est vrai que c'est très inquiétant quand même et on se dit comment on en est arrivé là ? C'est-à-dire une entreprise quand même qui avait qui avait une certaine dynamique, qui a fait certainement des erreurs stratégiques, c'est sûr. Mais globalement, là, a priori, j'ai vu le cours boursier, 90% de baisse, quoi.
On perd 70% depuis le début de l'année.
C'est quelque chose assez incroyable. C'est-à-dire que là, on est au bord de la faillite. Et je pense que donc il y a une déperdition, évidemment, une destruction de richesse. Pourquoi Airbus a dit non alors qu'Airbus va bien ? Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Il y a peut-être des cadavres dans le placard que nous, on ne connaît pas encore.
Difficulté d'accès à certains comptes d'Airbus, des rivalités au sein d'Airbus, tout le monde n'a pas la même approche.
C'est ce que je veux dire, c'est que s'il y a des cadavres dans les placards, c'est que l'entreprise n'est pas gérée à bien. Et parallèlement, alors l'État, ça c'est le coup de théâtre.
Oui.
Ça veut dire qu'en gros, le prêteur en dernier ressort, l'État, on nous dit qu'on va réduire les dépenses, mais finalement, on va encore les augmenter. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire, mais moi, je pense surtout évidemment aux salariés, c'est d'Atos, quoi. C'est-à-dire, on pensait dans une belle boîte, et puis finalement, c'est pas le cas. Donc, on découvrira certainement, parce que là, on ne sait pas encore les détails. Je crois que tu vas évoquer tout à l'heure, donc je vais te laisser avancer, mais parce qu'on en a parlé avant l'émission, donc je vais pas le dire ce qu'il veut dire, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, surtout des erreurs stratégiques, et comme toutes les boîtes, on les paye aujourd'hui, malheureusement.
Est-ce que, Léon, vous pensez que l'État a trop tardé à intervenir dans cette histoire au moment où on parle de réindustrialisation? Est-ce que vous dites
qu'on aurait fallu attacher? Moi, je pense que d'abord, c'était un rendez-vous manqué pour Airbus et un rendez-vous manqué évidemment pour Atos. Alors pourquoi un rendez-vous manqué pour Airbus? Évidemment, comme disait Marc, ils auraient pu constituer en fait et se renforcer sur la cybersécurité, donc c'est une bonne chose. Alors c'est vrai qu'en regardant les comptes sur cette partie de business qu'on appelle le BDS, hein, en fait, sur la cybersécurité d'Atos, effectivement il y a un souci de rentabilité lié à la trésorerie. Je pense que là c'est un point. Donc finalement la rentabilité économique a primé. Alors maintenant, le rendez-vous manqué pour Atos, effectivement, c'est que on aurait pu, pour Atos, évidemment, rembourser une partie de leur endettement qui est très lourd. Et moi, je regardais les comptes semestriels 2023 d'Atos. On voit que leur marge opérationnelle s'améliore. Donc, elle était en 2022 de 3,2% et elle arrive à 3,8%. Donc, c'est une bonne chose. Mais, pour avoir l'équilibre d'exploitation, il faut avoir une marge de 8%. Donc, ça veut dire clairement, il faut un plan, un renforcement d'un plan d'assainissement. Bon, on sait que le groupe a commencé. Oui. Il me semble aussi de se concentrer sur leur cœur de métier, qui est le conseil en technologie. Et donc, sur la transformation digitale. Voilà, donc là, c'est mes premières
analyses. C'est intéressant parce qu'on a entendu beaucoup d'analyses financières sur le sujet, mais c'est la première fois qu'on entend celle-là.
Oui, parce que, vous savez, le problème, c'est qu'il y a une grande transformation là, que nous vivons, technologique, écologique, sociétale. Et je crois que dans les grands groupes, on a besoin d'agilité et donc il faut qu'elle se transforme. Et donc, c'est vraiment un bel fleuron quand même. Hein. Ouais. Et aussi, vous parlez, pour répondre à votre question, Paul, l'intervention de l'État. Évidemment, il faut que la France et l'Europe puisse avoir une autonomie stratégique. Et Atos a des supercalculateurs et travaille sur les questions de défense.
Oui, mais justement, est-ce que la dualité franco-allemande ne serait pas à l'origine de cette annulation du projet ? Le gouvernement français n'était pas forcément partant pour qu'une entreprise franco-allemande mette la main sur la dissuasion nucléaire française, Lim ?
Ah, ça, je ne sais pas. Mais votre analyse est extrêmement intéressante. Le Atos a été développé lorsque Thierry Breton a monté sa stratégie de croissance externe.
Oui.
Et donc, quand vous faites de la croissance externe, vous avalez beaucoup de choses. Bon, alors, il se trouve que c'est des activités stratégiques. Et qu'ensuite, quand Thierry Breton est parti, on a quasiment filialisé l'entreprise en mettant d'un côté les supercalculateurs et de l'autre côté la cybersécurité. Le problème, c'est que c'est des activités stratégiques. Alors, certes, le critère de entre guillemets bonne gestion, ça serait la marge opérationnelle que vous dites, sauf que les activités stratégiques que qu'on souligne ici, est-ce qu'elles peuvent être rentables ? C'est quand même ça le sujet. Et ça a été saucissonné entre guillemets dans la perspective d'être revendu, puisque il était question de revendre BDS d'un côté
à Airbus et l'infogérance
à Kretinsky. Oui. Ça s'est pas fait. Donc la logique des choses voudrait que si c'est des activités stratégiques, notamment pour le nucléaire en France et pour l'aviation civile et militaire, il faudrait peut-être que l'État remette son nez dedans.
Oui, mais l'État va devoir...
La perte de valeur...
Ah ben l'État va le faire, il vient de l'annoncer. Hein.
L'État va le faire.
Quand même effondré.
Oui, mais l'État va le faire en tordant le bras à des acteurs qui n'en ont pas... L'État va le faire en tordant le bras des acteurs qui n'en ont pas forcément envie. Voilà,
c'est ça. Mais c'est pas une question de tordre le bras. Je vous rappelle qu'en octobre, on a eu un débat ici lorsque Philippe Brun a été à l'initiative...
Député socialiste.
À l'Assemblée nationale d'un vote... pour la renationalisation. Et d'ailleurs, il a acquis gain de cause en commission des finances. Oui. Un vote pour la renationalisation d'une partie de l'entreprise. Je pense que c'est maintenant à l'ordre du jour.
Non, mais, ce qui alors, surprend Marc, quand même, c'est que la cybersécurité, c'est-à-dire, c'est indispensable. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment l'avenir, entre guillemets. Bon, d'un point de vue nucléaire, effectivement...
On les attend lors des Jeux Olympiques sur ce sujet, d'ailleurs, entre autres.
Mais c'est ça qui est très surprenant. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui a fait en sorte que Airbus ait dit non et jeté le dossier? C'est qu'il y a un loup, il y a un problème, je pense, au-delà même de...
Ah mais Marc, Airbus dit qu'en matière de cybersécurité, je cite, Atos ne possède pas de technologie particulière, que tout réside dans les hommes qui peuvent être trouvés n'importe où ailleurs.
C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une prise sur la marchandise. Parce qu'on pensait justement qu'il y avait un savoir-faire, qu'il y avait une niche.
Alors ça, couplé et, priori, au non-accès aux chiffres, en effet, ça pose beaucoup de questions.
Ah oui, c'est très inquiétant. Et donc, moi, je pense qu'on est tous d'accord, comment a été gérée la boîte? Alors peut-être depuis Thierry Breton, on ne sait pas, on verra le détail, mais c'est sûr que ça rappelle une vieille théorie que voilà, grossir coûte que coûte, entre guillemets, ou quoi qu'il en coûte, maintenant c'est une expression, ça ne ramène pas grand-chose, parce qu'on a des coûts organisationnels qui sont tellement élevés, et finalement il n'y a pas de vraie stratégie, c'est juste de la croissance comme ça externe, et la stratégie, effectivement, n'était pas là. Donc c'est triste, mais encore une fois, moi je pense surtout aux salariés, parce que c'est quand même une boîte qui avait un certain renom, des salariés justement qui sont certainement très compétents. Et donc, c'est triste par mauvais choix stratégique.
Ça nous rappelle tristement l'histoire Casino. Hein.
Oui. Exactement. Non, mais ça veut dire que les dirigeants, malheureusement, d'une entreprise, parfois, ils l'amènent, malheureusement, voilà.
Qui sortira de nouveau du bois pour sauver Atos? Mathieu Perchebetti nous rappelait ce qu'il nous disait il y a quelques semaines. N'abandonnez pas, n'enterrez pas Daniel Kretinsky, qui, oui, n'est plus en lice officiellement pour reprendre l'infogérance, mais qui pourra revenir sous une forme ou une autre. S'il fallait trouver un sauveur, un homme providentiel.
Alors, moi je dis que c'est pas trop tard.
Pour
Atos. Ouais, moi, je dis qu'il faut restructurer, évidemment. Ils ont évidemment, l'équipe dirigeante d'Atos a commencé. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que cela. Et effectivement, le soutien du gouvernement serait le bienvenu, comme disait Lim, sur les aspects tellement stratégiques pour nous, la France. Ouais. Les supercalculateurs, la cybersécurité, etc. Donc, je pense que là, il y a un coup à jouer gagnant-gagnant. Aussi bien pour la France, le gouvernement, et aussi bien pour Atos.
En tout cas, la perspective d'une procédure de sauvegarde se rapproche à grands pas. Hein.
Moins 19% pour Atos ce soir, 1,73€. Le titre a dégringolé de 70% depuis le début de
cette... C'est le moment d'acheter.
C'est peut-être le moment d'acheter.
Sauf si la boîte disparaît. Hein. Faites prudent. Mais en tout cas, les cas, si on partage l'optimisme de Léon, oui, c'est le moment d'acheter. Mais si l'État rachète, voilà. Ça sera à bon coup. Donc
oui, voilà, exactement.
Et vous verriez beaucoup.
On va faire à suivre.
Bien, Bruno Le Maire, lui, pendant ce temps, qui était donc à Berlin devant le patronat allemand aujourd'hui pour relancer alors un vieux dossier, hein, créer une véritable union des marchés de capitaux en Europe. En gros, c'est quoi? C'est un supermarché du financement d'Europe pour tenir tête aux Chinois, aux Américains.
Et oui, c'est toujours cette idée que les systèmes financiers travaillent ensemble pour mieux driver l'épargne des particuliers, pour créer des géants dans bien des domaines, de la tech à la transition climatique. Et Bruno Le Maire a d'ailleurs pris l'exemple d'une pépite française pour illustrer le problème. On écoute.
Si nous n'avons pas de Capital Market Union, entreprise comme Mistral, créée en France, start-up de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui a probablement des logiciels et des algorithmes aussi efficaces que ceux de Google ou de Microsoft. Elle a pu lever 100 millions d'euros en France, puis 200, puis 300. Mais demain, ce sera 1 milliard qu'elle devra lever, ou 10 milliards. Soit il y a une union des marchés de capitaux, soit cette entreprise partira aux États-Unis.
Mais Mistral a déjà fait rentrer à son capital des fonds d'investissement américains. Et qui touchera, c'est vrai, les futurs dividendes de ces pépites? Ce sont les retraités américains qui toucheront via leurs fonds de pension.
Mais donc on voit bien que ce n'est pas un problème d'union financière. Oui. C'est-à-dire que c'est des... Je ne comprends pas, bon, je ne veux pas être méchant avec Bruno Le Maire. Bon, là, il sort un nouveau livre, on va être gentil.
Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est amusant. Quoi. Il sort un livre, on dit ce qu'il faut faire, alors qu'il a été ministre de l'économie depuis 2017.
Donc pourquoi ne l'a-t-il pas fait?
C'est un autre débat. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi les entreprises françaises? Effectivement, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup qu'on appelait des licornes. J'aime pas trop ce nom parce que licorne, ça n'existe pas une licorne, donc ça veut dire que ça fait un peu, c'est un peu bizarre, mais bon, peu importe. Et bien, souvent, elles doivent se trouver des financements à l'étranger parce qu'elles n'ont pas justement ces fonds d'investissement. Donc, c'est pas un problème de marché de capitaux, d'union des marchés de capitaux. On a Euronext, etc. C'est plus un problème de financement de l'investissement innovant. Et nous, il nous manque un acteur financier. Dans les années 60,
il manque des fonds de pension.
Voilà, on avait l'État qui avait effectivement les moyens d'investir. Maintenant, l'État, comme il est effectivement il a une dette tellement énorme qu'il n'a plus les moyens de continuer à faire ça.
Et les banques non plus ne peuvent
pas. Et les banques, elles aident bien sûr, mais pas sur 30 ans, pas sur 40 ans. Donc il nous manque un type d'acteur. Alors on appelle ça des fonds de pension, on peut appeler ça différemment. Des fonds d'investissement qui vont gérer la retraite notamment et qui vont avoir donc de l'épargne bloquée pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui ont fait les GAFAM, qui ont fait toutes ces success stories. Moi, ce qui me déçoit quand même, si vous voulez, alors on a la même chose en Chine, effectivement, où là, bon, c'est plus public, oui. Mais néanmoins, ça reste des fonds d'investissement ou des fonds souverains. Vous voyez, donc ça existe, mais donc il faut pas uniquement penser que si on fait cette union des marchés de capitaux, qui à mon avis d'ailleurs est un petit peu bancal,
non, mais d'accord,
ça
Marc, va sauver le système. Sauf que quand même, Lim, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le marché unique se concrétise en effet par la libre circulation des biens et des personnes, mais ça ne se concrétise pas pour les flux financiers.
Ah bah si. Ah bah si, absolument. Les capitaux circulent
non, mais c'est
de façon complètement mobile.
Non mais c'est très fragmenté.
Et dans toutes les régions du monde.
C'est très fragmenté aujourd'hui.
Je vous étonne, je suis entièrement d'accord avec Marc.
C'est bien.
Tout peut arriver.
Cette parfaite mobilité
des capitaux. Parce qu'on n'a fait pas rien, on sort bien tous les deux.
Même sur les fonds de pension. Sur les private equity, c'est les fonds américains qui financent aujourd'hui. Et sans parler de fonds de pension, il faut dissocier le sujet entre le capital risque et le financement des retraites. On peut très bien avoir un financement des retraites par répartition et dire que pour les deux. Start-up...
Les deux, on peut avoir les deux.
Oui, bien sûr. Et pour les start-up, on peut très bien considérer que comme elles ne sont pas cotées en bourse et que l'accès au crédit bancaire est difficile, il faut du capital risque. Et là-dessus, il n'y a pas besoin de sortir le gadget d'une union de marché de capitaux dont personne ne veut aujourd'hui.
L'idée est quand même de dire effectivement, on est sur des sommes pour financer la transition écologique, le réarmement, la transition numérique.
Mais
on est sur des sommes qu'effectivement ni les États ni les banques ne peuvent financer ou alors
non, mais du gadget, attendez,
mais l'idée de créer un produit d'épargne européen, est-ce que vous trouvez ça aberrant? Même si c'est très complexe.
On a 370 milliards d'euros d'épargne excédentaire.
C'est du gadget. Un produit d'épargne européen privé, ça serait pour financer quoi?
Eh bien, la transition...
Oui, qui, concrètement?
Aider à la constitution de géants européens.
Et quel géant, gérer ça? Quel géant?
Justement, on n'a pas de financement,
il n'y a pas d'économie européenne intégrée aujourd'hui. L'économie européenne, ce sont des économies qui restent spécialisées sur des bases nationales, identifiables et même divergentes sur le plan économique. Et donc, le vrai sujet, c'est de permettre... À chaque État, de financer sa transition écologique, son Inflation Reduction Act par des politiques budgétaires et des aides d'État suffisantes, ça c'est la première chose à faire. Après, l'épargne nationale, elle doit être drainée vers ces projets-là nationaux. Et il y a déjà des marchés nationaux qui par ailleurs sont hyper connectés à l'échelle européenne. Euronext a 10 ans et organise très bien la mobilité du capital entre les bourses nationales.
Bon, Léon, pour mettre tout le monde d'accord.
Alors, je vais avoir une autre vision. En fait, je crois qu'Audrey, vous avez dit que c'est un serpent de mer qui revient depuis 2015. Vous avez trois secteurs difficiles à réguler. Les télécommunications, l'énergie et évidemment la finance. Donc la question d'avoir... C'est une bonne idée, en fait, en théorie, d'avoir une union financière. Mais ça pose les questions de régulation, de gouvernance, de fiscalité.
Et voilà.
Et moi, je dirais que aussi en France, est-ce que vous savez qu'il existe un livret d'épargne entreprise pour les créateurs d'entreprises et les repreneurs, plafonné aux alentours de 40 000 euros? Pourquoi ne pas créer ce livret d'épargne entreprise dédié aux PME, justement pour la transformation écologique et technologique? Parce que, comme vous savez, Marc, les livrets EA, je crois, collectent chaque année aux alentours de 400 milliards, c'est ça?
Oui, donc, c'est un montant historique,
avec
d'ailleurs.
Avec un montant plafonné de 22 850, je crois. Donc déjà, si on déplafonnait, on doublait, imaginez qu'on aurait 400 milliards pour financer cette transformation écologique et technologique.
Conclusion, on a déjà du mal à flécher l'épargne des Français pour financer la création de gros géants français. Alors au niveau européen, mon Dieu, c'est tout.
C'est ça le problème. Moi, je
ça
pense que
sacerdoce là.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est un petit peu l'arlésienne et puis c'est surtout des efforts marketing. Mais globalement, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi quand on veut, comme ça, orienter l'épargne, plus ça fait un peu peur. Oui. On veut l'obliger à aller. Non, mais elle s'oriente d'elle-même, vous voyez ce que je veux dire? Si, effectivement, il y a des bons projets, il n'y a pas de raison.
Non, mais d'accord, donc, mais on a réussi à contracter un emprunt commun historique durant la pandémie. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas la même énergie face à l'innovation?
Non, mais il y a aussi un enjeu très important.
Face aux investissements que l'innovation
a besoin. D'accord. Un enjeu très important au niveau européen, c'est quand on a justement créé l'Europe, etc., qu'il fallait une harmonisation des conditions fiscales et des conditions réglementaires. mer. Et ça, on l'a complètement oublié. Je veux dire, aujourd'hui, on a, entre guillemets, des paradis fiscaux dans la zone euro même. Comprenez ? Donc, tant qu'on n'a pas cet accord de la fiscalité, ça me paraît très compliqué parce que l'épargne va aller d'elle-même, entre guillemets, dans des pays où il y a moins de taxation. Si on a une taxation unique, espérons vers le bas, bien entendu, ça pourrait le faire. Sinon, ça va être très compliqué. Donc, des bonnes intentions, ça c'est sûr, hein, des efforts marketing. Après, est-ce qu'il y aura des effets concrets ? Malheureusement, j'en doute.
Bon, Bruno Le Maire, en tout cas, est allé faire son pèlerinage aujourd'hui du côté de Berlin. Devant le patron allemand, on va reparler un peu de Bruno Le Maire, parce que je crois que Lim a envie de revenir sur ce qui a été dit hier par Bruno Le Maire, à la fin de l'État-providence, etc.
Est-ce que vous avez lu son livre, Lim ?
Il n'est pas sorti encore.
Edwige Chevrier, on l'a reçu.
Oui.
Ah, vous l'avez reçu déjà ?
Oui, ça commence à circuler.
Nous, il n'a pas envoyé.
On vous le prêtera.
18h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir sont avec nous, Léon Lelouza, Lim Wangnop et Marc Toiti. Lim, vous vouliez dire un mot de... Alors, mon micro ne marche plus.
Oui, on va réparer ça d'ici un instant. Non, Lim voulait dire un mot, parce qu'on a envoyé les thèmes en fin de matinée. Lim me dit, je voulais revenir quand même sur ce qu'a dit Bruno Le Maire hier, qui veut mettre fin à l'État-providence. Ça vous a choqué ?
Bah oui, parce que j'écoute
pas. Alors, fin de l'État-providence, début de l'État-protecteur. Bonjour, État-protecteur. Qu'est-ce qui vous a choqué fondamentalement ?
Bah oui, parce que j'écoute France Inter le matin et ça m'a fait bondir quand il a dit on est en plein emploi. Avec 7,5% de chômage, hein. Faut quand même le faire pour dire. Il y a quand même près de 5 millions de demandeurs d'emploi catégorie A, B et C. On est en plein emploi. Bon, on est en plein emploi et l'État-providence tel qu'il est en France ne permet pas de descendre en dessous et d'atteindre par exemple 5%.
L'État-providence ou l'État social ?
Bah, c'est bien ça le sujet. Il commet deux erreurs. Première erreur, est-ce qu'on est en plein emploi avec 5 millions de chômeurs catégorie A, B et C ? C'est un vrai sujet. Les économistes s'échinent à expliquer le chômage de masse
involontaire qui prévaut
depuis les années 80. Et là, on serait en plein emploi. Et en fait, il dit ça pour justifier les mesures de réforme de l'assurance chômage qu'il prend et qu'il veut continuer à insuffler. Parce que c'est des mesures qui caressent dans le sens du poil l'électorat qui déteste l'assistanat, la bureaucratie et tout le tralala parce que M. Le Maire est déjà en campagne électorale pour la présidentielle de 2027. Alors après, l'État-providence, la France, c'est pas l'État-providence. L'État-providence, c'est le modèle beveridgien, c'est la Suède, c'est l'Angleterre. La France, c'est l'État social, c'est les partenaires sociaux, l'assurance chômage. Allez dire aux syndicats que c'est l'État qui prend en charge.
Ah, mais les syndicats ont déjà réagi, mon cher Lim.
Voilà. Ouais. Donc là, on remet en cause un principe clé qui est le financement de la protection sociale obligatoire par le salaire socialisé qu'est la cotisation
un
sociale.
Chiffre,
et là, vous mettez le doigt sur un pilier du compromis de 45.
Un chiffre, Lim, 2024, dépenses de l'État, des collectivités locales et la Sécu, plus 120 milliards par rapport à 2019. Alors, je ne dis pas que c'est ça l'État-providence, mais les crises passent, les années passent.
Mais quand on dit les dépenses publiques restent, en France, c'est parce qu'il y a un choix de société en France.
65% du PIB.
Qu'est-ce qui pèse dans la dépense publique ? C'est pas les dépenses de l'État en tant que telles, c'est la
les
moitié...
Les dépenses de l'État, collectivité locale et sécurité sociale. Hein,
oui, mais c'est la Sécu qui coûte cher. Oui. Mais la sécurité
et
sociale...
Et les frais de fonctionnement, accessoirement.
Si on raisonne structurellement, elle est à l'équilibre. Hein. Le déficit, il est conjoncturel, justement parce qu'on n'est pas en plein emploi. Si on était en plein emploi, il n'y aurait pas de déficit. Et c'est parce qu'on mène les mauvaises politiques conjoncturelles, c'est-à-dire qu'on appuie sur le frein et monétaire et budgétaire, alors que la reprise n'est pas consolidée, que le chômage est en train de repartir.
Oui, c'est ça, on appuie sur l'accélérateur et sur la pédale de frein en même temps, Marc Toiti.
Ouais, moi, ce qui m'amusait aussi, c'est en fait, il nous dit ouais, il faut arrêter que l'État augmente ses dépenses comme ça, etc. Mais qui l'a fait là, depuis des années.
Gouvernement Borne, le plus cher de la 5e République. Le plus dépensier.
Bon, je veux bien, effectivement, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde, donc ok. Mais là, en 2023, on a le déficit public qui a complètement explosé les compteurs, et de l'État, uniquement de l'État. Donc, là aussi, encore une fois...
Vous ne faites de la croissance qu'en dépensant toujours plus en France.
Mais c'est ça qui est complètement fou. La dette publique, je donne ce chiffre, parce qu'elle est quand même tellement énorme. Depuis 2019, la dette publique a augmenté de 750 milliards d'euros. Le PIB français, en valeur, vous avez augmenté de l'inflation, a augmenté de 350 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 750 pour récupérer 350. Donc après, on dit oui, on a acheté la paix sociale. Quelle paix sociale ? Parce que c'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est qu'on a effectivement un poids de dépenses publiques qui est très élevé. Et malheureusement, il n'y a pas cette paix sociale. Moi, comme vous le savez, je suis un enfant des systèmes HLM d'Orly. Moi, j'en ai bénéficié de cette entre guillemets, ces aides sociales. Et je remercie l'État français, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup qui le critiquent. Mais On arrive aujourd'hui au bout du système, ça ne fonctionne plus, donc il faut repenser complètement. Moi je pense qu'il faut de l'État dans l'économie, mais un État qui soit efficace, justement qui regarde cette réalité en face et qui prenne les bonnes mesures. Mais nous qu'est-ce qu'on fait? Une fuite en avant permanente, et c'est ça qui est très difficile. Et d'ailleurs, pour terminer avec nos amis allemands, comme on en parlait tout à l'heure,
oui.
Vous savez, on va passer avant 2000, Le Maire, on va à 2007. L'époque, se disant, on veut faire la rupture, vous vous souvenez? Donc de 2007, je dirais, à aujourd'hui, la dette publique française a augmenté de 150%.
Oui, mais...
Sur la même période, le PIB français en valeur a augmenté de 46%. 3,2 fois plus vite. Alors que si vous prenez en Allemagne, la dette publique a augmenté de 62% et le PIB de 67%.
Oui, c'est un sujet de...
Mais ce que je dis pas, c'est que on peut, effectivement, mais c'est vrai que c'est un choix de société.
Mais voilà, mais alors c'est justement, puisqu'on parle de choix de société, Léon, vous avez une vision très international, il y a beaucoup de pays dans le monde qui nous envient cet État-providence.
Moi, je dirais plutôt un État de soutien à l'économie et à la société. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde l'endettement des dépenses publiques, au niveau européen, on est un peu élevé,
mais évidemment. Les
effectivement.
En termes d'augmentation.
Donc, moi, je pense qu'il faut mieux... Il faut faire des dépenses, mais mieux dépenser. Sur des secteurs clés comme l'éducation. Lorsque je regarde au niveau de comparaison au niveau européen, on a moins de budget pour les dépenses liées à l'éducation. Donc je pense que ça, c'est important. Parce que pour créer la valeur dans les entreprises, il faut d'abord former les collaborateurs dans les entreprises. Et notamment, on parle encore des grandes transformations écologiques technologique. Et là, c'est là où le gouvernement devrait se concentrer davantage.
Lim voulait répondre à Marc, là, je sens.
Il faut bien qu'on soit pas d'accord.
Le contrat mutuel. Juste une petite nuance, et par rapport à ce que vous disiez, la dépense, la croissance, c'est de la dépense. Sauf que quand il n'y a pas la dépense privée, il faut bien l'enclencher.
On va dans le sens, la dépense génère la croissance aussi en France.
Voilà, non, mais la dépense publique, par définition, la dépense, c'est la croissance. Hein. Ouais. Un point de PIB, c'est de la dépense privée ou de la dépense publique. Par des
Après, vous juste la financer, il faut la financer, voilà, donc par nos impôts.
Le vrai sujet, enfin, il y a deux sujets. Le premier, c'est est-ce qu'on a conscience aujourd'hui qu'il faille financer la transition écologique et faire de la dépense verte?
Alors, ça, depuis qu'on sait combien ça coûte avec le rapport Jean-Pisani-Ferry, on a un peu moins envie de la financer.
Oui. Mais on a la possibilité de le faire. Hein,
Alors, augmenter l'impôt, ça, c'est une ligne rouge.
Bah oui, mais pourquoi pas?
On va le faire.
Remarquer que c'est quand même un petit peu moins la tendance du moment.
Malheureusement, pourquoi pas? Parce qu'ils ont baissé de 50 milliards.
Enfin, c'est la grande promesse du gouvernement, ne pas augmenter les impôts.
Les impôts, et il y a l'endettement. Et sur l'endettement, j'ai une petite nuance avec Marc, c'est que moi, je suis partisan des politiques contracycliques.
Ah, moi aussi.
Je pense que si on était en plein emploi,
qu'il arrive,
le maire aurait raison de prôner une action sur l'offre. Mais là, on n'est pas en plein emploi. Justement parce qu'on n'est pas en plein emploi.
Enfin, lui dit qu'on l'est.
Laisser jouer les stabilisateurs automatiques, mais faire du contrat cyclique. Et a fortiori quand il faut faire de la transition écologique. Donc, je ne comprends pas pourquoi la France n'a pas appuyé la Commission européenne qui a proposé une réforme du pacte de stabilité qui permettait précisément de mettre en place ce type de stratégie. Et là encore, on marche sur la tête.
De s'affranchir des critères, c'est ça que vous voulez?
On l'a déjà fait.
Il était suspendu. Et la réforme que proposait la Commission était précisément de laisser les marges de manœuvre nécessaires aux États qui le souhaitaient pour engager la transition et faire du contrat cyclique.
Un dernier point sur la dette, si tu permets, c'est qu'effectivement, quand la dette coûtait rien, qu'on était doté à zéro, ok, maintenant, on le voit bien, la charge d'intérêt de la dette chaque année, c'est 50 milliards d'euros.
Là,
on va bientôt atteindre 75 milliards.
Poste de dépenses
les taux à 10 ans sont à 5, l'inflation était à 4,9 l'année dernière, donc on s'endette vraiment pas cher quand même.
Sentez la grande improvisation, là, quelques semaines du verdict des agences de notation, donc on rappelle Moody's et Fitch qui vont rendre leur verdict, je crois que c'est fin mai.
26 avril pour Fitch et Moody's, et 31 mai pour Standard & Poor's.
Donc 10 jours avant les élections européennes, grosso modo.
Oui, de toute façon, là, ils font tout justement pour ne pas être dégradés. Parce qu'en fait, il faut être honnête, on aurait déjà dû être dégradés depuis bien longtemps, puis on ne l'est pas par miracle, on ne sait pas trop comment. Et là, donc, on nous dit à chaque fois, non, vous inquiétez pas, c'est sous contrôle, on va réduire la dépense, on va faire des économies, etc. Peut-être ça va encore passer, hein, j'en sais rien. Et le gros problème, c'est que vis-à-vis d'autres pays, moi, je pense à nos amis italiens, nos amis espagnols, nos amis portugais, même nos amis grecs, qui ont fait des efforts énormes, justement. Eux, ils ont réduit massivement.
On précise, Marc, on reste quand même derrière la Grèce et l'Italie.
En termes de dette publique par rapport au PIB.
Publique, oui,
oui, bah heureusement, encore
heureux. Mais parce que vous écoutez, on demande.
Regardez, le ratio depuis 2019, le ratio dette publique par rapport au PIB en France, il a augmenté de 13 points. En Grèce, bon, on partait de haut, c'est sûr, il a baissé de 22 points. Ce que je veux dire, dans la zone euro en moyenne, le ratio depuis 2019, parce qu'entre temps il y a eu quand même le corona, il a augmenté de 3,4 points. Nous, 13,1. Il n'y a pas un pays qui a fait plus que nous. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème, c'est que, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Simplement, en termes de notation, il y a une sorte d'inégalité. Ce n'est pas normal que la dette italienne soit triple B,
que nous, on soit encore double A. On va voir ce qui va tomber en avril.
Pour illustrer le bienfait des politiques contracycliques, la dette, elle culmine en 2021 à 118,5% du PIB. Parce qu'on a fait le quoi qu'il en coûte. Donc, il y a eu une dizaine de points de plus. Et précisément parce que ça a enclenché un effet multiplicateur, on a fait une croissance de 7,2 en 2022, eh bien, la dette, elle a rebaissé en un an de 6 points. Elle était à 112. Et aujourd'hui, elle continue à baisser.
Depuis 2019, plus 13 points.
Justement parce qu'il y a la reprise qui permet de désendetter. Et le problème, c'est qu'on lève les mesures de relance trop tôt. Ouais.
Léon.
Alors, justement, pour soutenir la croissance, moi, je crois qu'il ne faut pas parler de dépenses. Moi, je préfère parler d'investissement.
Ah, oui.
Et donc, justement, parler de l'épargne. Et pourquoi ne pas créer un fonds d'épargne où on investit et là, on ne toucherait plus aux dépenses.
Ouais.
Et donc là, ça pourrait avoir un coup de pouce dans l'économie française.
Mais d'ailleurs, c'est ça la clé de la relance keynésienne. Je veux dire, c'est via l'investissement, évidemment. Ouais. Donc, et ça, c'est ce qu'on oublie. Et c'était le rôle de l'État à la base. Mais comme il a préféré dépenser ailleurs, pas faire de l'investissement, c'est ça qui nous coûte cher aujourd'hui, malheureusement.
On a tendance à la mettre un peu à toutes les sauces, la relance keynésienne.
Évidemment. Mais sauf que Keynes, il disait, bon, de temps en temps, il faut avoir un excédent public.
Oui,
sauf que nous, le dernier excédent public en France, il remonte à 1974. Vous savez, c'est 50 ans qu'on n'a pas
eu. Parce qu'on fait que du procyclique.
C'est ça. On est quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, on augmente notre dette.
Contracyclique.
Vous n'avez pas l'air d'être très inquiet du verdict des agences de notation au printemps prochain. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça.
Je pense que beaucoup de choses ont été négociées en amont. Je crois que, je crois que M. Le Maire lui-même a déclaré hier qu'il avait rencontré Standard & Poor's avant la dernière notation. Donc
c'est clair.
Je ne me fais pas trop dire.
Mais c'est pour ça le fait qu'il s'active quand même comme ça. Oui. Moi, je me le dis qu'il y a.
Alors, moi, je pense que c'est au contraire parce qu'il a déjà reçu un appel, puisque les gouvernements ont prévenu avant du fait que la note va être dégradée.
Exactement. Moi, je pense qu'il est au courant et qu'il fait tout pour que ça n'arrive pas.
Bon, parce qu'on s'est rendu compte en début d'année que les rentrées fiscales n'étaient pas du tout à la hauteur des attentes. Finalement, il y a eu un électrochoc aussi, puis les révisions de la croissance en baisse, évidemment. Bien. On reste en France. Alors, certains diront avec une pointe d'ironie qu'il a fallu attendre 2024 pour qu'on se penche sur ce sujet. Le Sénat se penche en ce moment, au moment où on se parle, sur une proposition de loi qui propose d'instaurer ce qu'on appelle un test PME. C'est une mesure de simplification pour les entreprises.
Oui, alors c'est d'une évidence fracassante. L'idée, c'est de dire qu'avant de voter l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme, eh bien, on la teste. Et le patronat réclame ça depuis des années. On écoute tout de suite François Asselin, le patron de la CPME, qui était ce matin sur BFM Business.
Est-ce que ce projet de loi, cette proposition, va impacter négativement la vie des PME? Et quand je dis PME, c'est trois lettres magiques, mais ça touche toutes les entreprises, bien évidemment. Et si la réponse est oui, ça risque d'impacter négativement la vie des PME, eh bien là, on l'expertise, on essaye de comprendre comment. Et si, à l'issue de cette commission, eh bien, on voit qu'on n'a toujours pas la réponse, eh bien, on expérimente. Le législateur aura toujours le choix d'aller contre l'avis, s'il le fallait, de la commission simplification.
En tout cas, il saura ce qu'il fait. Il sait que
il saura ce qu'il fait en responsabilité. Et nous saurons à quoi nous attendre.
Non mais alors comment peut-on imaginer des normes sans même se poser la question de savoir comment elles vont impacter la vie au quotidien des entreprises, Léon ?
Je crois qu'aujourd'hui, les PME, évidemment, ont besoin de mieux décider, d'investir, d'arbitrer. Et donc, évidemment, il est essentiel d'avoir des normes qui puissent accompagner, fluidifier leur agilité. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose d'avoir ce projet de loi pour faire un test. Vous savez que c'est comme dans les entreprises, nous on apprend ça dans nos écoles de commerce, c'est-à-dire lorsque vous allez créer un nouveau produit, vous allez faire un test. Mmh. Et puis si c'est concluant, ben là vous mettez en place. Et donc avançons en marchant, Et c'est mieux, on teste, il y a des erreurs, on ajuste, on apprend, et donc c'est un cercle plutôt vertueux.
Dites quoi, Marc, il a fallu attendre, moi je dis, il a fallu attendre 2024 pour...
Ce qui est fou, si vous voulez, c'est que justement, ça veut dire qu'en gros, on a créé énormément de normes qui ont fait du mal, oui. effectivement, nos PME. Donc c'est un peu le problème. Moi qui vois tous les jours, effectivement, nos PME, je me dis, après, évidemment, les pauvres chéries, c'est pas les boîtes du CAC 40. Non. Elles ont du mal à vous rendre les deux bouts, on va leur mettre effectivement des normes.
C'est la majorité du tissu économique français.
Bien entendu, 97% des entreprises en France ont moins de 10 salariés, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais après, je ne sais pas de quelles normes il s'agit. Est-ce que c'est les normes sur le marché du travail, sur les normes fiscales? J'ai retrouvé un truc là. Depuis 2000, le code du travail en France, il a augmenté de 1758 pages.
Voilà.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
alors qu'on était censé le réduire.
Dans le code du travail et le code général des impôts, plus 1748 pages, ça veut dire 3840 pages. Donc,
non, mais ça concerne, pour répondre à votre question, les normes qui concernent les entreprises de manière générale.
Donc, y compris le code du travail, ça veut dire y compris le code des impôts, etc.
Alors, François Asselin a quand même pas mal parlé des normes environnementales, c'est la CSRD avec tout le reporting désormais imposé aux entreprises. Alors, lui, il parle de tsunami administratif, véritablement.
Oui, alors après, moi, ma crainte quand même, c'est que, je termine sur ça, c'est que on crée encore une usine à gaz. C'est-à-dire, voilà, alors on va faire un test, on va faire une commission qui va légiférer, qui va discuter. Oula, ça fait encore des dépenses.
Je vous la fais en deux lignes. Donc, organe rattaché au Premier ministre qui sera doté d'une commission administrative consultative, chapeautée elle-même par un président chargé d'animer un réseau de correspondants à la simplification dans les administrations centrales.
Usine à gaz, c'est bon,
c'est perdu tout le monde. Comme ça. LIM, c'est compliqué de simplifier.
C'est une initiative qui vient de l'Union européenne, qui demandait aux États, parce que c'est une initiative européenne au point de départ.
Oui, tout à fait, oui.
Et alors, il y a eu un comité Théodule, comme dirait le général, entre 2014 et 2017, qui s'appelait le Comité pour la simplification des entreprises. Un peu sur le même modèle, mais ça existait. Et il a été enlevé en 2017. Donc là, on remet à peu près la même chose. Alors, avec un haut commissaire, un membre du Conseil d'État et des représentants, pas des chefs d'entreprise, des représentants des organisations patronales. Hein, ça va être ça le format. Et effectivement, c'est un nouveau comité qui, normalement, est chargé de donner son avis en amont sur les normes que l'Union européenne pourrait demander aux États de transposer à travers des directives. Moi, j'ai compris que c'était comme ça que ça devait fonctionner.
Vous avez créé un machin qui va mêler des parlementaires et des chefs d'entreprise. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, des parlementaires et des chefs d'entreprise. Ouais,
Non, mais c'est bien déjà qu'on consulte les chefs d'entreprise. Est-ce qu'on n'a pas assez fait jusqu'à présent? Mais encore une fois, c'est une usine à gaz, quoi. Je veux dire, faut être honnête. Alors que c'est tellement, c'est souvent du bon sens. Mais quand on met effectivement des normes qui se contredisent, je prends un exemple, la fiscalité. Ça, c'est quand même très important parce que là, on touche justement l'inégalité de la fiscalité. Parce qu'en fait, elle est tellement complexe que quelqu'un, une entreprise ou un citoyen qui peut se permettre de se payer un fiscaliste, il va payer moins d'impôts que celui qui n'a pas les moyens de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très inégalitaire, cette complexification. Et donc,
oui, voilà, après, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Pardon. Le gouvernement va être obligé, tout simplement, sur tous les projets de loi qui concernent les entreprises, de consulter ce comité et qui devra donner un avis avec ce test PME. Donc.
Non, bien sûr, mais je veux dire, ce que je veux dire, moi, il faut simplifier, hein, comme tu le disais. Il faut simplifier. On devait le faire depuis des années et ça n'arrive toujours pas. Donc, c'est l'Arlésienne. Encore une fois, beaucoup de marketing et malheureusement pas de résultats concrets à la fin. C'est dommage.
Donc, c'est cet organe que les sénateurs veulent créer. Ça s'appelle le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises. Et rien que ça, ça fait un peu peur. Voilà pour l'actualité. 3 minutes à peine. C'est l'heure de l'extra time.
Tous
les soirs, vos humeurs du soir, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes, évidemment. Chacun votre tour. Qui va commencer ce soir?
Alors, c'est la première fois pour Léon. On précise jusqu'au bout de 30 secondes, Léon, il y a une alarme qui se met en place.
Il y a une trappe et on tombe.
Non, ça, c'est pour la rentrée. Ça sent quand même. Allez-y, Léon, allez.
Ouvrez le bal.
Je vais parler du paradoxe de l'économie du sucre. Comme vous savez, la consommation du sucre s'accroît. Donc en 2023, dans le monde, nous avons consommé 176 millions de tonnes. En 2030, nous prévoyons de consommer 190 000 tonnes. Et d'un autre côté, l'Agence de sécurité sanitaire observe qu'il y a une diminution de la teneur des sucres dans les produits alimentaires.
Oui.
C'est une bonne chose et ça renforce justement la responsabilité sociétale des entreprises.
un effort de pédagogie.
Il faut manger moins de sucre.
Voilà.
Les cours du sucre ont flambé l'année dernière.
Le message est passé.
Lim Bong No, 30 secondes, Lim, c'est à vous. On vous écoute.
Eh ben, c'est un coup de gueule contre une nouvelle année blanche dans la fonction publique, s'agissant de la revalorisation du point d'indice. Il y a eu un gel des salaires pendant 10 ans. Après, il y a eu un 3,5 il y a 2 ans, un plus 3,5, un plus 1,5 l'année dernière. Mais ça ne suffit pas à compenser la dégradation du niveau de vie des serviteurs de l'État. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y a des emplois vacants et qu'on peine à recruter des gens qualifiés dans la fonction publique.
Il peut se passer des choses d'ici les Jeux Olympiques. Vous avez compris que les syndicats mettent la pression. Donc ça se trouve, ça va bouger dans les prochains jours. On verra bien. C'est le feuilleton d'ici le mois de juin, le mois de juillet.
Marc Toiti, c'est à vous.
Oui, alors moi, justement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la dichotomie qui est entre les profits du CAC 40. Évidemment, tout le monde en parle. Il faut les surtaxer, etc. Mais quand on regarde la réalité de l'économie française, il y a les chiffres de la Banque de France qui viennent de sortir sur les défaillances d'entreprises, oui. Donc qui sont au plus haut depuis 2017, janvier 2017. Et si on enlève les micro-entreprises, donc on est sur des niveaux historiques. On n'a jamais vu ça. Le dernier sommet, c'était en 2009. On est à 1% au-dessus de ce sommet. Donc, c'est ça la réalité, malheureusement, des entreprises françaises, et notamment des PME, qui souffrent aujourd'hui. Donc, il faut tout faire pour les sauver.
Donc, une économie à deux vitesses.
Hein. Malheureusement.
Merci, messieurs. C'est terminé pour ce soir. Merci d'être venu. Léon Laulouza, directeur général de l'ESCP Business School. Lim Wang Nok, maître de conférences en économie, ex-député européen. Marc Toiti, économiste, président du cabinet à ces défis. Merci messieurs, à très vite avec plaisir sur BFM Business pour Nouvelles Aventures. 19h55, c'est fini déjà.
Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est passé trop vite comme d'habitude. Ceci dit, pas de panique puisque le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et puis bien sûr, on se retrouve demain soir.
Et dans un instant, François Soral, Tekanco pour vous accompagner. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business.
Good evening, Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.